censure. Tout est en ordre, on peut commencer? Je veux être sûr que l'enregistrement fonctionne. Donc, séance sur l'amélioration de WHOIS, une actualisation. Nous avons une présentation ici à l'écran. Plusieurs intervenants vont vous parler des différents aspects du programme ICANN visant à améliorer le système WHOIS. Beaucoup d'entre vous ont assisté à d'autres séances pendant la semaine pour avancer, mais cette séance va se concentrer uniquement sur le système WHOIS qui existe actuellement et ce qui est mis en place pour essayer de l'améliorer. Donc, nous avons une série d'éléments ici à l'écran. Nous allons avoir un moment pour une séance questions-réponses à la fin de cette réunion. Et nous allons commencer par une introduction, passer en revue les différents départements à l'ICANN qui travaillent pour essayer d'améliorer la précision et l'efficacité du système WHOIS. Donc, comme je l'ai dit, j'aimerais vous donner un peu les antécédents. Lors de le conseil d'administration de l'ICANN, la dernière réunion du conseil d'administration de l'ICANN s'est penchée sur les directives afin d'améliorer l'efficacité du système WHOIS. Et le conseil d'administration a adopté un plan d'action qui a une liste très détaillée d'éléments à mettre en œuvre afin d'essayer d'améliorer ce système WHOIS conformément aux recommandations émanant de l'équipe de révision. Donc, ce plan d'action a été adopté en novembre. Depuis novembre, il y a eu toute une série d'activités dont on va vous en dire un peu plus aujourd'hui et qui sont résumées dans le rapport annuel publié juste avant cette réunion de Buenos Aires. Et je vous donnerai un lien. Vous voyez ici le lien du plan d'action et du rapport annuel pour que vous ayez une idée des différentes activités qui sont en cours. Concernant la résolution du conseil d'administration en novembre dernier, on se concentre sur le fait d'essayer d'appliquer les résolutions actuelles et promouvoir davantage la sensibilisation et la communication. Ça fait partie des principales recommandations de cette équipe de révision. Avec le plan d'action adopté, nous avions des étapes spécifiques que le personnel a convenu d'entreprendre ou d'améliorer, y compris les communications, la sensibilisation aux communications, dans le cadre du traitement de certaines questions contractuelles qui permettraient d'améliorer la manière dont le programme WHOIS a été mis en œuvre. Donc, depuis l'année dernière, il y a beaucoup d'activités qui sont réalisées liées aux négociations des différents contrats. Comme vous le savez, nous avons maintenant un RA 2013 qui a sensiblement amélioré les obligations contractuelles. Nous avons également un accord d'accréditation pour le programme GTLD. Et il y a toute une série d'activités de réclamation dont on va parler dans un instant sur et donc on va voir comment cela a été mis en œuvre. Par rapport à la communication et à la sensibilisation, notre travail s'est concentré sur le fait d'établir une bonne communication entre le bureau d'enregistrement, les titulaires de noms de domaine, voir quelles sont les politiques qui sont liées à cela. Et cela a amené à une série d'améliorations concernant des outils en ligne. Et je vais céder la parole à Steve Anderson qui va vous parler du nouveau site web de WHOIS, l'un des éléments clés de ces activités visant à améliorer le système WHOIS. Merci, Margie. On essaie de vous montrer cette présentation à l'écran qui ne fonctionne pas encore. Peut-être que vous voulez passer cette présentation sans avoir à passer par Adobe Connect. Peut-être que ce serait plus simple. Alors, je vais vous donner un petit peu des informations par rapport à ce site web en attendant qu'on ait la présentation à l'écran. Donc, Whois, par rapport à une personne qui ne connaîtrait rien de cette industrie ou de Whois, on a essayé d'avoir un contenu qui soit simple et qui souligne toutes les obligations à haut niveau. Donc, en naviguant sur ce site web, sachez que l'objectif ici, ça n'était pas d'avoir une description des termes contractuels. C'était plus une description de haut niveau pour aider une personne qui ne connaît rien à ces questions d'en savoir un peu plus sur Whois. Steve, au micro. Bien, je vais vous donner un aperçu résumé du contenu de ce site web. Et ensuite, je vais vous donner des informations sur les prochaines étapes. Nous avons mis le site web Whois dans les 6 langues des Nations Unies. Il y a environ 200 pages et liens vers d'autres pages que nous offrons dans chacune des langues. Donc sur la page principale, il y a la section informations sur Whois, des informations sur ce qu'est Whois, où en est Whois aujourd'hui, et des efforts permanents pour aider à faire évoluer Whois. Introduction sur certains détails techniques qui constituent Whois. Nous pensons qu'une partie de ce site, une section de ce site va évoluer à mesure que nous développons la mise en œuvre de Whois avec des manuels pour utilisateurs et des informations plus techniques pour ce qui concerne les services de Whois à proprement parler. Ensuite, vous avez une section où on peut obtenir des informations sur les phases actuellement mises en œuvre de Whois et également un retour d'informations. C'est un mécanisme que l'on a mis en place concernant le contenu du site web, mais également les fonctionnalités elles-mêmes. Donc j'encourage tout le monde à prendre un peu de leur temps et à examiner le contenu de cette page pour suggérer des améliorations, des précisions ou faire que ces présentations soient plus complètes. Ensuite, nous avons une section politique sur ce site qui se divise en deux grandes parties, l'une mise en œuvre et l'autre l'application. Donc la mise en œuvre comprend tout le travail qui est actuellement réalisé par rapport à la mise en œuvre de Whois, depuis les politiques qui sont en place, certaines procédures qui peuvent découler des politiques, ainsi que tous les accords d'accréditation qui sont liés à ces sections spécifiques. Également des informations par rapport au bureau d'enregistrement. Et ensuite, nous avons une section sur les principales actualités concernant Whois et l'adoption donc de ces questions. Ensuite, nous avons une section sur la participation qui vous donne un aperçu de ce que représentent ces mécanismes pour les utilisateurs et de la façon dont ces utilisateurs peuvent participer aux mécanismes. Vous voyez qu'il y a des liens vers différents groupes de travail, des liens vers les activités de ces groupes de travail. Bref, toute une série d'informations pour que les utilisateurs sachent comment participer davantage. Ensuite, une section sur l'amélioration de Whois. En l'état actuel, Whois a mis en place un formulaire de réclamation avec la dernière phase du projet. Il y a une étude sur Whois. Et la structure dont nous présentons ces informations peut changer. Mais voilà où nous indiquons les principales informations. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un autre formulaire de réclamation Whois qui va être développé à l'avenir et on va continuer à faire en sorte que cela soit dans la lignée de ce qui figure sur la page web. Ensuite, une section du site visant à consolider toutes les informations dont nous disposons et qui, d'après nous, devait être intégrée dans le débat sur Whois. Donc là, c'est divisé également en fonction, dans un ordre chronologique. Et il y a des éléments où il y a un lien vers des descriptions de ce contenu et des liens donc vers ces sites. Voilà un petit peu un aperçu du stade où nous en sommes et vers où nous pensons aller avec ce site. Nous avons une prochaine phase du site Whois, la prochaine étape, la deuxième étape plutôt, étant l'observation générale qui est en cours. Nous avons élaboré un plan d'action et il y a également des évolutions dans la conception de ce travail. Je crois qu'il y a deux diapos là-dessus. Je vais essayer de les trouver. Oui, avant de passer aux diapos, nous aimerions avoir les retours et la réaction de la communauté par rapport à ce nouveau contenu. Quels sont les besoins de la communauté? Et si vous souhaitez réagir pour savoir comment améliorer le contenu du site web, parce que ce site web est essentiel par rapport au système Whois. À qui doit-on envoyer ces commentaires pour améliorer le site web? Sur le site web de Whois, il y a plusieurs liens qui sont indiqués. Et c'est probablement la manière la plus simple de soumettre des informations. Bien, Steve. Alors, phase 2. L'outil d'examen et de recherche Whois, il est actuellement mis en œuvre. Nous espérons le mettre en œuvre en deux étapes. La première étant une possibilité pour l'utilisateur de faire une recherche en cherchant des contrats d'accréditation par l'intermédiaire du moteur de recherche Whois. Ensuite, on travaille pour normaliser ou rendre systématiques les résultats et les recherches des utilisateurs. Donc, il y aura une deuxième phase pour harmoniser et normaliser tout cela. Durée attendue de mise en œuvre en janvier pour la première phase et en avril pour la deuxième phase. Phase 3 de ce site web Whois, un système de rapport et d'échantillonnage. Ce qu'on va faire, c'est développer un projet d'expérience pour permettre à la communauté de nous faire des commentaires, faire en sorte que Hui soit plus précis et obtenir des suggestions par rapport au message qu'il présente, par rapport à la méthodologie technique que l'on a suivie. Donc une fois qu'on recevra vos commentaires là-dessus, on va pouvoir mettre en œuvre la première série d'améliorations. Merci Steve. Je passe maintenant à la présentation de Weird. Et c'est l'IETF qui va vous faire cette présentation. Bien. Alors, je travaille à l'IETF. Alors, c'est une habitude à l'IETF de ne pas parler pour l'IETF, mais de l'IETF. J'ai une fonction à l'IETF comme président du groupe de travail de l'IETF. Je me suis réunie avec Mekre Sheradi. Bien, who is? Comme vous l'avez vu sur le site web, on vient d'en avoir une démonstration, ce n'est pas un acronyme. C'est en fait la conjonction de deux mots, who is en anglais. Où en est-on aujourd'hui? Du point de vue du protocole technique, c'est quelque chose de très simple, extrêmement simple. C'est-à-dire, posez une question et vous allez recevoir une réponse. En une ligne, vous tapez cela, vous appuyez sur Enter et vous obtenez une réponse. Voilà la description technique de ce système. C'est certainement l'un des protocoles les plus simples des données IETF. Il y a eu une, peut-être deux mises à jour. Et peut-être que 3912, c'est la dernière spécification à cet égard. Vous voyez ici un exemple. Vous tapez une question, vous obtenez une réponse. Mais ce que vous voyez ici, c'est que la question que vous posez, la structure même, est différente du nom de registre et du numéro de registre, parce que le protocole WHOIS est un protocole qui permet d'avoir accès à des informations sur les données portant sur les registres concernant les noms et les adresses et les numéros. Par nom, j'entends adresse IP et autres. Alors, comment rentrer l'adresse et votre réponse, ça dépend du contexte. Et la réponse, donc, dépend du serveur auquel vous vous adressez. Ça vous donne toute une série ça donne lieu à toute une série de problèmes. Il n'y a pas de service différentiel pour WHOIS. Quelle que soit la personne qui pose la question, vous obtenez la même réponse. Là se posent des problèmes de confidentialité. Peut-être que certains souhaitent obtenir davantage d'informations et le protocole, en l'état actuel, n'a pas été façonné pour cela. Des choses comme mon nom en chinois, en caractère chinois, ça n'est pas internationalisé. Vous ne pouvez pas avoir des machines qui interprètent le résultat. Et donc, le traitement automatique est très difficile, ce qui rend la normalisation très difficile. Il n'y a pas de capacité de redirection standard. Donc, si vous posez une question « Who is ?», il n'y a pas de manière standard de passer à l'étape suivante. On a essayé d'améliorer cela, et en particulier avec les adresses IP. Et il n'y a pas de manière standardisée de voir où vous allez si vous posez une question. Quel est le serveur à qui je m'adresse pour obtenir une réponse? Excusez-moi, je continue de me tromper sur le bouton sur lequel j'appuie pour passer à la diapo suivante. Je vous ai déjà parlé sur quoi et comment. La méthode pour fournir ces données et quoi le contenu de ces données. On a parlé du comment et pas du quoi. Bien entendu, il y a une interaction entre ces deux questions, mais la question du quoi, c'est une question politique à laquelle doit répondre la communauté. Et ça dépend, bien entendu, si vous parlez de la communauté CCTLD, la communauté locale, mais c'est une question politique. Bien, WIRDS. Service de données, de registres Internet sur le web. On parle de protocole d'enregistrement sur Internet. Ça, ça apporte un petit peu de précision entre ces deux questions, quoi et comment. Ce protocole porte sur le comment. Il est élaboré pour mettre en place un protocole qui est censé résoudre tous les problèmes dont je viens de vous parler, internationalisation, structure, redirection et authentification pour les différents services. Et l'une des principales caractéristiques, c'est qu'on a essayé d'utiliser une architecture relativement standard qu'on appelle RESTful. RESTful, je ne vais pas l'expliquer en détail, mais je vous dirai simplement qu'il s'agit de services d'application web. C'est la manière dont l'Internet mondial fonctionne. C'est en gros l'architecture qu'on a utilisée. Et l'avantage de cela, c'est qu'il y a toute une série de données pour les gens qui veulent mettre en œuvre ce protocole. On a essayé d'améliorer les services de WHOIS comme RAS, par exemple. Et à ce moment-là, le problème qui se pose, c'est que le protocole est très difficile à mettre en œuvre. On a essayé de ne pas tomber dans ce problème-là. Et par conséquent, ce que vous allez voir dans le protocole futur, c'est que vous allez utiliser des demandes qui ont des structures telles que URL et qui sont très faciles à traiter pour les humains et encore plus pour les machines. L'IETF travaille avec des chartes, donc il y a un plan d'action qui est décrit quant à ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui relève du protocole ou non, qui se conjugue ou qui est étayé par des étapes importantes. Il y a toute une série de projets qui vont apparaître en cours. Les documents de sécurité ont été faits. On travaille actuellement sur ce qu'il faut faire sur la demande et sur la réponse, la structure de la réponse. Et il y a un autre protocole qu'il va nous falloir compléter. Les dates que vous voyez à l'écran, c'est le calendrier qu'on a fixé. On a d'autres étapes importantes qu'on n'a pas incluse ici, mais qu'il faut traiter d'abord en groupe de travail, on n'a pas résolu. Il faut qu'il y ait un consensus de l'IETF. Certaines questions qu'il faut résoudre. Mais sachez en tout cas que le groupe de travail sait parfaitement ce qu'il reste à faire au sein du groupe de travail. Alors, quelles sont les principales questions qui sont débattues au sein des groupes de travail? La recherche. Comment faire cette recherche? Il faut qu'il y ait une capacité de recherche qui peut être très étendue, qui peut concerner tous les modèles de recherche, qui coïncide au nom de domaine ou au nom d'entité. Vous pouvez utiliser des expressions normales ou autres. Ce qu'on a décidé de faire, et c'est finalement une approche générale dans notre travail, c'est d'essayer de rendre les choses aussi simples que possible. Donc, le nom du groupe de travail ne doit pas être trop long. Donc, même si on a décidé que les choses doivent être aussi simples que possible, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas se compliquer par la suite. Donc, on a appliqué une méthode simple avec certaines questions internationales qui doivent être prises en considération. Et qui porte sur les variantes et sur d'autres éléments qui figurent dans le document, à savoir essentiellement des politiques locales. Autre problème, le mécanisme, comment trouver le serveur approprié? On a quelques idées là-dessus. Les mécanismes peuvent varier en fonction des noms et des numéros par rapport au nom de domaine. Il y a 3 propositions qui ont été soumises. À Vancouver, il y a 2 semaines, il ne semblait pas y avoir consensus. Il y a plusieurs approches à cela et il y a encore un débat en cours sur ce qu'il faut faire. Mais ces 3 questions seront décrites et on verra ce qui sera finalement adopté et mis en pratique.
Donc, il y a quelques petits problèmes de redirection. Et je crois que c'est quelque chose que nous saisissons mieux lorsqu'on a des problèmes de bootstrap. Avec le serveur, le problème de redirection, comment est-ce que vous passez au serveur suivant avec des informations plus détaillées? Un exemple, pour que ça soit pas trop abstrait, pensez par exemple à un nom de domaine au Royaume-Uni et vous voulez obtenir des informations, vous devez tout d'abord trouver le serveur où sont les données d'enregistrement pour le Royaume-Uni. C'est un système de centralisation. Et il peut y avoir là un service de redirection vers un autre serveur où on trouve plus d'informations. Donc, nous travaillons à l'inventaire des objets qui sont utilisés dans le Wild. Donc cela nous indique les documents sur les objets qui couvrent la plupart de l'espace. Et il y a une description et un débat à ce niveau-là d'ailleurs. Comment, au niveau de l'architecture du web, avoir une architecture du web qui spécifie correctement tous les différents réseaux. Je crois que le 19 novembre, nous avons eu une ébauche de projet, une proposition pour régler justement ce problème. Donc il y a deux bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles, je dirais même. À l'ITF, nous avons parlé des codes actuels et d'un consensus. Mais les codes de fonctionnement sont là. Ils sont présents. Il y a eu plusieurs mises en œuvre qui ont été effectuées et qui sont actuellement développées. Ça donne de très bonnes caractéristiques. Et lors des derniers ITF, il y a eu des tests d'interruption qui ont été effectués. Les résultats d'interopérabilité ont permis d'avoir des caractéristiques beaucoup plus claires et précises. En ce qui concerne les coordonnées, vous avez donc toutes nos adresses URL pour une discussion générale, notamment dans le cadre des services extensibles enregistrement de données Internet basées sur le web. Voilà où vous pouvez trouver nos adresses. Également à l'adresse de liotf.org. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais maintenant passer au transparent de l'intervenant suivant par rapport aux efforts de contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement pour 2013, le RAA pour 2013. C'est donc ce dont on va t'aborder lors de la prochaine présentation. Oui, merci beaucoup. On est prêt à démarrer. Allons-y. Petit problème technique d'ordinateur. D'accord, très bien. Je m'appelle Mike Zepke, je suis directeur des programmes des contrats de registre à l'ICANN et j'ai été responsable du nouveau RA 2013, de ce nouveau contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement qui a été accepté en juin par notre conseil d'administration. Nous avons eu un processus. Quel est le rapport avec WHOIS? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est ce dont je vais vous parler. Donc, s'il revient un petit peu en arrière, le RAA, nous allons utiliser cet acronyme, il a été amendé en 2009 et ensuite, la communauté a demandé fortement que bien que ce soit un bon départ, il fallait véritablement améliorer ce contrat d'accréditation dans le domaine, dans l'espace DNS pour ce contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement qui sont en rapport étroit avec leurs clients et qui ont d'excellentes données sur l'utilisation des domaines. C'était très sensible, vous savez, dans la communauté, notamment pour les forces de l'ordre et pour la propriété intellectuelle, pour les intérêts de propriété intellectuelle. Donc ce processus, véritablement, a été lancé à la suite du travail du GNSO, des négociations nombreuses qui sont survenues avec les forces de l'ordre qui ont 12 recommandations d'amélioration. Donc on a pris le retour d'information de l'ALAC du SGNSO, il y a des commentaires publics. Nous avons négocié avec les bureaux d'enregistrement pendant 18 mois. Et c'était pratiquement 2 ans en fait. Et finalement, nous avons obtenu un nouveau contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement, ce RAA, en 2013, et différentes substances, mais également un nouveau format avec beaucoup de caractéristiques et spécifications juridiques. Je vais rentrer plus dans les détails d'ici quelques instants. Ce qui est important de noter également au niveau de ce contrat d'accréditation, c'est qu'il y a un nouveau processus d'amendement et de modification. Nous avons ce consensus pour le développement des politiques, mais il y a la possibilité pour un titulaire de venir voir donc l'ICANN et de se plaindre. Il y a des problèmes qui peuvent être gérés de cette manière. Il y a un débat qui peut se faire entre les titulaires et les opérateurs de registre. Donc, on n'a pas besoin d'un PDP qui prend beaucoup plus de temps, un développement de politique de politique publique. Et ce qui est nouveau également, c'est que les bureaux d'enregistrement ont le droit de renouveler. Donc, avec ces deux éléments, on n'a pas besoin d'avoir différentes versions du contrat RAA. Donc, on aura donc le RAA 2013 qui sera amendé en temps réel. C'est donc un système de renouvellement, en quelque sorte. Ça sera un processus constant tous les 5 ans. Je crois que là, on fera un nouveau contrat. Donc, je crois que c'est bien pour la communauté. C'est positif pour la CAN également. Vous savez, je crois qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose qui sera beaucoup plus durable, qui sera que très peu amendé. Donc, il y a plusieurs clauses et stipulations qui existent et qui sont nouvelles maintenant par rapport à 2009. Donc, il y a un programme de précision du WHOIS qui sera beaucoup plus précis. Il y a un accord pour les niveaux de service du WHOIS. Il y a des points de contact pour les litiges et les abus. Il y a une spécification sur et des caractéristiques sur la vie privée, la défense de la vie privée. L'accès à l'IPv6 est également pris en compte, des systèmes de procuration, il y a eu l'élimination du port 43, maintenant c'est fourni par des TLD qui s'appellent SIC. Il y a également une demande de l'élimination d'avoir accès en bloc en données et des ventes en gros. Donc il y a donc ces WHOIS, ces TLD détaillés qui sont offerts. Depuis 2008, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par le GNSO pour la réconciliation entre le contrat de la CAN et les lignes de conduite, les clauses et spécifications des différents bureaux d'enregistrement. Comment un bureau d'enregistrement peut venir à l'ICANN et où en est son WHOIS? Est-ce que son WHOIS viole les règles juridiques locales? Ça dépend de la juridiction, ça dépend des lois de l'État ou de la nation. Donc, on a essayé d'harmoniser un petit peu ces contrats d'accréditation. Et j'espère que je parle pas trop vite. Je sais que très souvent je parle un petit peu trop vite. Je m'en excuse auprès des interprètes. Mais le programme pour la précision du WHOIS. Commençons avec ce qu'il y a de plus simple. Éliminons les problèmes du WHOIS. Et il me semble que tout d'abord, les bureaux d'enregistrement doivent s'assurer que les titulaires de noms de registre et les opérateurs, dans le cas des GTLD, aient toutes les données, qu'il n'y ait pas des espaces vides, des blancs. Donc ça, c'est assez facile à faire, il n'y a pas eu d'objection, il faut regarder ces champs, il faut qu'ils soient informés de la bonne manière, avec le bon format, adresse email, numéro de téléphone, adresse également, il y a des conventions pour cela, adresse postale. Donc, ce n'est pas très complexe, mais il y a toujours des surprises. Nous avons maintenant une vérification du courriel, de l'adresse email et du numéro de téléphone avec le titulaire du nom de domaine et du compte, s'ils ne sont pas les mêmes. Il y a donc une période de 15 jours où l'on doit contacter par email ou téléphone ou SMS et demander que cette personne réponde au bureau d'enregistrement. Donc il y a des systèmes de code pour s'assurer que ces adresses sont valides, que ces numéros de téléphone sont exacts. Ça, c'est un nouveau critère. Il y a une grande différence dans la manière dont on travaille, et il me semble que maintenant, les bureaux d'enregistrement devront valider les adresses en croisant les différents champs qui existent. Donc, cette ville existe, cette province existe, c'est dans bon état, dans le bon état de cette nation, dans la bonne province, c'est une rue qui existe, et ainsi de suite. Il faut que ça soit faisable et que ça soit valide au niveau commercial et au niveau de la réalité. Donc on doit identifier les outils qui sont disponibles pour justement permettre la vérification de ces données du WHOIS pour que le DOIS soit exact et que il reflète une réalité. Il y aura donc des outils pour valider toutes ces données. Et on a déjà mentionné un petit peu tout ça auparavant, donc je n'insiste pas. En ce qui concerne le niveau de service agrément, les SLA, eh bien, cela a trait avec le format, les réponses des mises à jour du bureau d'enregistrement. Donc, j'ai mentionné que les bureaux d'enregistrement ne devront plus fournir le port 43 pour les enregistrements détaillés. Et les bureaux d'enregistrement auront toujours néanmoins des obligations par rapport au port 43. Donc cela décrit un petit peu les critères que l'on doit respecter pour le WHOIS et pour les niveaux de service. Donc ils ont plus de temps pour répondre aux requêtes. Maintenant, j'ai parlé de respect de la vie privée et procuration. Quelles sont ces spécifications? On parle beaucoup au bureau d'enregistrement de cela. On aurait pu dire, voilà notre liste, voilà ce que nous voulons obtenir, voilà les standards que nous voulons respecter. On aurait pu les forcer à respecter cela. On a eu des principes, on a des principes très forts qui doivent régir notre travail. Et voilà où on en est. Le GNSO étudie la question et nous avons des spécifications par intérim qui demandent au bureau d'enregistrement de divulguer les services à la clientèle, de savoir quels sont les risques éventuels qui existent, informer des risques éventuels. Les clients doivent savoir dans quelles circonstances les données vont être publiques et donc manque de respect de la vie privée. Il faut absolument communiquer aux clients ce qui respecte leur vie privée ou pas. Et nous avons des services de procuration également affiliés. Il y a des rapports avec d'autres bureaux d'enregistrement qui peuvent exister. Donc, qui gère véritablement le WHOIS? On a réussi à obtenir un compromis depuis 2009. On demande donc au bureau d'enregistrement de fournir ces données, mais de dire à leurs clients à quel niveau on respectait leur vie privée, quelles données étaient publiques, quelles données restaient privées. Donc il y a des services, des prestataires de services de procuration qui jouent également un rôle. C'est pour ça qu'on a beaucoup de critères. Il y a une clause qui va expirer en janvier 2017, à moins que l'on trouve un autre accord à l'ICANN. L'idée que nous avons au GNSO et avec le GNSO, c'est que on doit améliorer constamment les lignes de conduite et les politiques. Je crois que l'ICANN et les bureaux d'enregistrement pensent que l'on peut améliorer le système et que l'on peut le faire dans le cadre donc de notre développement de politique. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est actuellement? Quel est le statut actuel du contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement 2013? Eh bien, il y a une transition, on a fait un addendum pour la transition, et il y a des obligations qui sont en vigueur au 1er janvier 2014, d'autres qui rentrent en vigueur tout de suite sur le champ. Lorsque l'on a développé cela, ça l'a beaucoup inquiété les bureaux d'enregistrement. Mais il y a beaucoup d'obligations qui ont été signés et il y a beaucoup de bureaux d'enregistrement qui se pourront en mesure de faire entrer cela en vigueur avant le mois de janvier. Et il y aura une séance qui va être consacrée à cela. Qui l'a déjà été, plutôt. Donc, c'est une version très condensée donc que je vous présente, mais on a eu 106 bureaux d'enregistrement qui ont signé le nouveau contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement, 75 qui veulent faire une adoption rapide, une adoption plus tôt de ce contrat Il y a l'équipe de Maggie qui est en train d'analyser tous les dossiers de demandes qui sont arrivés de la part des bureaux d'enregistrement et nous avons fait beaucoup d'informations, de séances d'informations pour s'assurer que tous les bureaux soient au courant et comprennent bien ce qu'ils signent, comprennent bien quelle est la teneur du contrat, les termes du contrat. C'est quelque chose qui a été demandé également par les forces de l'ordre. Nous avons un nouvel accord, un nouveau contrat plutôt, c'est comme ça que nous devrions l'appeler. Et d'ici demain, nous aurons fait 4 séances d'information en personne à Los Angeles. Nous avons fait des webcasts, on a été à Berlin. Demain, il y en aura un qui se déroulera en Argentine, très condensé, en une journée. Donc, Kathleen Teborgen a beaucoup travaillé à cela. Elle est très forte en webinaire. Elle a fait une série de webinaires. Et chaque semaine, nous faisons des webinaires sur les différents problèmes qui se posent avec ces contrats RAA 2013. Donc, nous avons tout un système où on peut répondre à des questions, on peut aider, fournir un conseil. On a un document une foire aux questions. Et donc, beaucoup de webinaires, beaucoup d'informations, beaucoup de formations, beaucoup d'aide pour vous tous, pour les bureaux d'enregistrement. Donc, on a été très actifs, véritablement. Et c'est couronné de succès. Je crois que on a lancé cela, on a connu le succès. Les nouveaux GTLD se basent là-dessus. On veut absolument que ça marche, que ça fonctionne bien et que le contrat soit bien compris, qu'il y ait une forte conformité. Et après, on ne veut pas tout nettoyer. Il faut que la conformité soit là dès le début au niveau de la signature du contrat d'accréditation avec les bureaux d'enregistrement. Et je crois qu'on est arrivé à un niveau de formation très élevé. Pour 2009, c'était pas du tout le cas. Il me semble que ça a pris du temps, on a un petit peu traîné, lorsqu'on était en 2009, hein, on a attendu 2010, 2011, là on a avancé beaucoup plus vite et véritablement on a fait un travail très fort de formation pour vous aider pour que dans le système DNS, je suis désolé de parler aussi vite, mais j'espère que vous avez suivi mon exposé et je vais maintenant rendre le micro à Madame Maggie Serrat qui va prendre la parole. Bonjour. Oui. Je m'appelle Maggie Serrat, je travaille à la conformité. Donc, qui a fait des plaintes? Qui a déposé des plaintes? Qui a reçu des plaintes? C'est tout. Très bien. Donc, voyons ce que l'on peut vous dire au niveau des litiges et des plaintes que nous avons reçues l'année dernière dans la communauté. Nous avons indiqué que nous allions complètement changer nos efforts de conformité pour améliorer véritablement quels sont les problèmes de données non précises qui ne sont pas assez rapidement obtenues. Et cela montre les efforts depuis septembre 2012. C'est le moment où nous allons lancer ce que l'on appelle un processus commun, un processus cohérent également pour gérer les plaintes au niveau de la conformité. Donc, avec ce processus, ce que vous voyez sur la droite, vous avez un petit peu le temps de réponse. On a moins d'étapes dans le processus. Avant, il y en avait 5. Maintenant, il n'y a que 3 étapes. On est plus basé sur des faits, sur du réel, sur du concret, sur des preuves concrètes de problèmes de conformité, ce qui nous permet de faire des décisions plus rapides. Et toute l'équipe a eu une formation croisée. Et il y a eu une plus grande automatisation des tâches également au niveau de tout le process. Et nous voulions maintenir au niveau pour les niveaux de service également une grande vitesse d'exécution. Vous voyez le grand nombre de plaintes qu'il y a eu en novembre 2012. Et vous voyez le temps que ça prend pour gérer le dossier. De par le passé, on a eu jusqu'à 169 jours pour véritablement clore une plainte. Parce qu'on n'avait pas un bon process, on n'avait pas assez de transparence, on n'avait pas d'automatisation des tâches, on n'avait pas de disponibilité des données. Donc c'était beaucoup de facteurs qui étaient néfastes pour une gestion rapide du cas. Donc, notre équipe a fait beaucoup pour faire avancer les choses. Regardez la rapidité que nous avons obtenue pour gérer la plainte dans le cadre du contrat d'enregistrement avec ce nouveau processus. Il faut qu'il y ait après 15 jours, une réponse des bureaux d'enregistrement lorsqu'il y a un problème de véracité ou de précision des données. Ensuite, il y a 5 jours ouvrables pour la réponse. Je suis très heureux de vous dire que toutes les plaintes de conformité pour les inexactitudes sont et rentrent dans ces délais. Donc nous sommes dans les temps. Pour la communauté également, nous avons amélioré l'utilisation, l'expérience des utilisateurs et la gestion des plaintes. Donc nous avons bâti une foire aux questions plus fréquemment posées, encore plus longues, par rapport au type de plainte. Et si vous allez sur ICANN.org, sur notre site, vous allez trouver sur la page WHOIS toutes les plaintes qui ont trait à WHOIS, et vous allez voir que l'expérience des utilisateurs maintenant est bien meilleure parce que il y a des questions qui sont déjà répondues sur le site, sur le site et qui sont auxquelles on répond dans les 6 langues onusiennes que nous gérons à l'ICANN. On veut vous donner la possibilité de faire plusieurs postes. Vous pouvez soumettre en même temps, en une seule fois, plusieurs plaintes. On a des personnes qui soumettent beaucoup de plaintes, qui ont un volume élevé. Donc on a une période pilote maintenant, on fait des tests pour pouvoir faire en vrac des plaintes, déposer des plaintes en vrac pour le WHOIS, soumettre plusieurs fichiers en même temps, avec des inexactitudes qui seront notées ainsi sur le WHOIS, et la personne devra être d'accord pour obtenir un nom d'utilisateur et développer un mot de passe pour télécharger et téléverser des fichiers sur ces inexactitudes. Donc ce sera une nouvelle manière de travailler. Là, pour le moment, on essaie de voir si ça plaît, si ça vous intéresse, si ça peut fonctionner. Nous allons le tester au niveau des titulaires de noms de domaine et des opérateurs de registre. C'est lorsqu'il y a des volumes élevés que ça peut être très intéressant. Et l'objectif des séances de formation et d'information, c'était de s'assurer que nous bâtissions à partir de l'expérience et des connaissances pour obtenir un traitement rapide des dossiers. Et avoir plus de rapports provenant de la communauté. Nous avons des mises à jour mensuelles qui sont très brèves, parce que ça a trait aux activités du mois. Et cela, une nouvelle fois, est fourni dans les 6 langues onusiennes, avec beaucoup d'informations. Il y a une publication accrue. C'est disponible pour la communauté. Ce n'était pas auparavant. Fadi a annoncé, il y a de cela 2 réunions, qu'il y a des chiffres dont nous avons besoin. Nous avons besoin de chiffrer nos résultats. Vous collectez beaucoup de données, c'est vrai, c'est ce qu'on nous dit, mais on doit avoir des opérations solides. On doit gérer notre charge de travail et on doit mettre à votre disposition des données chiffrées. C'est extrêmement important pour nous. C'est utilisé par les groupes de travail dans le cadre du PTP, du développement de nouvelles lignes de conduite. Et vous savez que il y a un grand service qui est offert à la communauté. Il est important de faire des questionnaires, des enquêtes pour prendre le pouls de la communauté et de voir quels sont nos outils, est-ce que nos outils sont au niveau, nos outils de compte-rendu, à quelle vitesse est-ce que l'on peut clore des dossiers à la suite de dépôts de plaintes, est-ce que tout le monde est satisfait de leur expérience, de notre travail au niveau de la soumission, au niveau du travail qui est fait sur les dossiers de plaintes, quelles sont les interactions entre la communauté et le personnel. Nous avons un retour d'information que nous analysons étroitement. Donc, pour résumer, je crois que nous avons beaucoup amélioré notre process et notre système. Nous répondons plus rapidement, nous nous basons sur des faits. Nous améliorons l'expérience des utilisateurs avec ces nouvelles fonctionnalités et capacité et ce retour d'informations provenant de la communauté et dernièrement, nous avons un taux de conformité de 89%, c'est un programme d'audit sur un an. Nous avons une vérification qui est faite actuellement et nous vous donnerons des résultats chiffrés là-dessus d'ici peu. Merci beaucoup Maggie. Eh bien, nous allons maintenant passer à Mary Wang, qui va nous parler de ligne de conduite en rapport avec Whois.
Merci Margie. Je vais demander l'aide de mon collègue pour faire avancer la présentation. Alors, on nous a demandé de nous présenter. Mary Wang, je fais partie de l'équipe sur les politiques et il y a toute une série d'activités qui ont lieu au GNSO. Je n'aurai pas le temps de vous les passer en revue en détail. J'espère qu'il y aura des informations à l'écran qui vous intéresseront. Ces diapos sont très détaillées. Vous êtes au courant des études sur Whois du GNSO. Certaines de ces études sont achevées. Il y a 3 PDP qui viennent d'être faits ou qui viennent d'être lancés au GNSO sur cette question. Diapo suivante. Bien sûr, les études Whois. Parmi les nombreuses études lancées, il y en a 2 qui ont été achevées et on attend les commentaires publics. Merci d'avance des commentaires que vous voudrez faire. Il s'agit de l'étude qui a lieu au Royaume-Uni et l'analyse des commentaires reçus par l'équipe et que nous espérons pouvoir lancer au début du mois prochain. Et je vais parler de cette étude lorsqu'on parlera des PDP. La dernière étude, Misuse Study, donc étude sur la mauvaise utilisation, ils viennent de finir cette étude et nous espérons pouvoir la publier et la soumettre aux commentaires publics d'ici peu. Je voulais vous montrer l'hypothèse qui a été testée par le NPL et vous faire un résumé des principales conclusions. Il y a de nombreuses conclusions, donc si vous n'avez pas lu ce rapport et que les questions liées à la confidentialité et au proxy, lisez ce rapport. La question était de savoir s'il était vrai qu'un nombre significatif de noms de domaine sont enregistrent des services de confidentialité et de proxy. Et si ces noms de domaine sont utilisés pour mener des activités dommageables via ces services, est-ce que ce chiffre est plus important par rapport aux noms de domaine plus généraux? Et la réponse à cette question est en partie vraie. Vous voyez ici certaines des autres conclusions obtenues par rapport aux 2 hypothèses. Je ne vais pas vous le lire en détail, vous pourrez le voir, mais il est intéressant de voir que non seulement les noms de domaine enregistrés pour ces activités se fondaient sur des services de confidentialité et de proxy, mais également des coordonnées comme numéro de téléphone et autres, et qu'ils ne donnent pas, ne fournissent pas des informations précises par rapport aux titulaires de nom de domaine. Pour les domaines considérés comme illégitimes, il y avait des études qui montrent que les domaines choisis pour mener ces activités dommageables, vous allez le voir sur les prochaines diapos. À gauche, vous voyez le type de domaines qui ont fait l'objet de l'étude. en fonction des références développées en concertation avec la communauté. Et dans les études NPL, on voit qu'il y a également une portée des activités certaines qui ont été suggérées par la communauté n'ont pas fait l'objet d'études. Et le travail s'est divisé en plusieurs parties. Vous voyez ici les principales conclusions que je vous mentionnais par rapport aux deux hypothèses. Passons très rapidement aux diapos suivantes. Vous êtes libre ensuite de revenir à cette présentation. Donc, je ne vais pas vous faire le détail des conclusions de cette étude. Comme vous le savez, il y aura également un webinaire qui va résumer les méthodologies et conclusions auxquelles sont arrivées cette étude. Mais vous vous souviendrez qu'il s'agit d'une étude qu'on leur a demandé de réaliser. Et la question est là encore, on parle d'une activité juridique et dommageable. Et je veux souligner le fait que parmi tous les termes utilisés, il y a une unité. Donc, ça a aidé, ça va aider l'ICANN à améliorer le travail de l'ICANN, non seulement dans ce domaine, mais dans d'autres également. Il y a eu des études descriptives sous forme de sondages à ce portant sur les titulaires de noms de domaine, bureaux d'enregistrement, opérateurs de registre, et le taux de réponse a été relativement limité. Mais vous voyez qu'il s'agit là des trois types de mauvaises utilisations qui ont été révélées. L'étude expérimentale qui a coopéré dans une large mesure par rapport aux conclusions de ce sondage. Si vous examinez ce rapport, il y a des détails sur ce qui peut être le cas, savoir si le GTLD est important. Et là encore, les termes utilisés par ces études sont les mêmes pour aider à cette unification. Rapport sur le fait de savoir si le nom de domaine a une importance et les effets de ces techniques utilisées par les opérateurs de registre ou les bureaux d'enregistrement. Diapo suivante qui montre les étapes suivantes. Nous prévoyons de diffuser ces études très prochainement et nous attendons avec impatience vos commentaires. Alors, je vous le disais, il y a trois PDP qui sont en cours au GNSO actuellement. Le premier dont je vais vous parler, c'est un PDP qui vient d'être lancé le mois dernier par le GNSO et qui est lié aux questions dont Mike a parlé lors de sa présentation, par exemple par rapport aux spécifications actuelles temporaires. Il s'agit d'analyser les questions par rapport à l'accréditation. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'ICANN s'est engagé vis-à-vis de ce programme d'accréditation. Donc ici, l'enjeu, c'est que le PDP du GNSO va mener à une recommandation, à une suggestion des meilleures pratiques par rapport à ce à quoi devrait ressembler ce PDP. Et comme je l'ai dit, ce groupe vient d'être constitué. Nous venons d'avoir une réunion informelle du groupe de travail et nous avons également parlé des travaux en cours du reste de la communauté, en particulier. Et je sais que hier, il y a eu une réunion du EWG. Et les résultats de ce rapport viennent d'être diffusés. La raison pour laquelle je parle du PDP maintenant, c'est que nous voulons encourager ceux qui sont désireux, ou plutôt qui souhaitent en savoir plus sur les PDP et ne font pas encore partie de notre groupe de travail, de le rejoindre. Alors, il y a des termes spécifiques spécifique pour les contrats d'accréditation du bureau d'enregistrement. La différence, c'est en termes de savoir et si les opérateurs de registre conservent les données associées au WHOIS. Et ce PDP a été conçu pour évaluer les conséquences du quiz détaillé. Il y a eu un certain nombre de commentaires publics que nous avons reçus en réponse au rapport qui a été élaboré sur le PDP et le groupe de travail. Le groupe de travail est parvenu à un consensus sur ses recommandations. Et vous voyez ici ce que recommande en priorité le rapport qui a été publié le mois dernier. Et étant donné que ce rapport et ses recommandations sont parvenus à un consensus au sein du groupe de travail, il a été adopté par le conseil du GNSO. Donc lorsqu'on dit achèvement ici, on passe à la phase de mise en œuvre pour cet effort en particulier. Donc il y aura une équipe de révision de mise en œuvre qui a été créée et qui va permettre à la communauté de travailler avec le personnel ICANN pour voir la transition et la mise en œuvre de ces recommandations veulent une mise en œuvre du WHOIS détaillé. Il y a une période de commentaires publics lors de cette période de mise en œuvre. Donc, sachez que si vous avez des commentaires à faire, vous avez la possibilité de le faire jusqu'à début décembre. Vous voyez le lien vers le forum public ainsi que vers le rapport si vous ne l'avez pas encore lu. Et pour le dernier PDP qui nous semblait important vis-à-vis du débat d'aujourd'hui, je vais passer la parole à Steve Shave. Merci, Mary. Vous voyez ici certaines informations sur PDP par rapport à la traduction des informations de contact. Et lors de la réunion publique hier, il y a eu une invitation à constituer un groupe de travail. Le groupe de travail se penche sur deux questions. D'abord, est-ce que les informations locales de contact doivent être traduites en une seule langue, par exemple l'anglais, ou bien en un seul script? La question politique est la suivante. Comment la communauté peut équilibrer la capacité des titulaires de noms de domaine d'entrée des informations WHOIS en anglais, par exemple, et équilibrer cela avec la consommation mondiale potentielle de ces données? Deuxième question, qui devrait décider de la traduction ou transcription de ces données? Et ça a été élaboré dans un document sur l'architecture Internet. C'est parvenu à la communauté ICANN par l'intermédiaire d'un groupe de travail et maintenant par l'intermédiaire de ce PDP. Dans le cadre des efforts pour fournir des données objectives, il y a une commission de faisabilité objective sur la traduction et la transcription de ces informations de contact pour voir quel est le coût de ces considérations concernant la précision. Et vous voyez ici les principales activités de ce groupe de travail. Et comme je l'ai dit auparavant, le groupe de travail va faire appel à des bénévoles de la communauté. Le personnel va également organiser un webinaire pour avoir des informations et un retour d'informations de la part des communautés et inviter les membres de la communauté à participer à ce PDP. Vous voyez ici les liens pour obtenir des informations pertinentes. Je vais maintenant passer la parole à James Galvin, qui va parler plus en détail des activités de ce groupe de travail. Merci, Steve. Je suis James Galvin. et je vais vous parler d'un groupe qui est né à partir de deux recommandations par rapport aux recommandations de l'équipe de révision qui figure ici à l'écran. Je vous invite également à voir la version complète de ce rapport pour bien connaître tous les tenants et les aboutissants de cette question. Ce groupe de travail, donc, est relativement nouveau. Nous n'avons eu que 3 ou 4 réunions. Et nous n'avons achevé qu'une seule action, à savoir se mettre d'accord dans le groupe de travail par rapport à notre charte. Nous avons invité les gens à participer en juillet. Le groupe a été constitué en septembre en fonction d'une sélection de 8 bénévoles. Nous avons des gens du monde entier ainsi que provenant également des techniciens dans le domaine de l'expertise et autres. Le groupe a deux résultats escomptés. D'abord, se concentrer sur les informations par rapport aux données, et cela provient directement d'une recommandation d'un groupe de travail sur les recommandations. Excusez-moi, j'ai oublié une diapo ici. Et donc, deuxième aspect, prendre en considération le modèle des données pour les données d'enregistrement internationalisé. Et cela provient des recommandations du groupe de travail sur les données internationalisées, motivé par l'équipe sur le WHOIS et par les membres du personnel qui font partie de ce groupe de travail sur l'actualisation de WHOIS. Nous avons maintenant un site pour que la communauté puisse suivre les activités de ce groupe de travail. Vous avez ici un lien de cette page. Comme je viens de le dire, ce groupe de travail vient d'être constitué. Nous n'avons eu que 3 ou 4 réunions et notre charte vient d'être établie en fonction de la demande de l'ICANN. Et dernière chose que je voulais vous dire, bien entendu, il y a un certain nombre de groupes de travail actifs dans ce domaine de l'actualisation de WHOIS. Donc c'est en perpétuelle évolution. C'est pourquoi je voulais vous dire quel est mon lien avec ces autres groupes. En particulier, nous avons l'actualisation du WERS, qui n'est pas un groupe de travail ICANN en soi. Mais j'espère que les contributions de ce groupe de travail vont nous permettre, vont nous éclairer dans nos activités, parce que sa mission est de voir comment étayer les données concernant l'enregistrement. Donc, il y a également le groupe de travail sur la traduction et la translittération. Et leur travail devrait compléter le nôtre. J'espère pouvoir travailler avec eux en étroite coopération. Nous sommes très intéressés par les résultats de leurs travaux et par le processus qu'ils vont suivre pour parvenir à des décisions, savoir s'il va y avoir ou non une traduction et translittération active ou si ça ne va pas être le cas. Et sur les données qui devront être traduites ou passer par la translittération. Donc, sachez que nos travaux ne vont pas entrer en conflit. Également, obtenir des informations par rapport au processus à venir PDP. Nous allons bien entendu soumettre nos travaux aux commentaires publics et nous verrons quelles sont les recommandations spécifiques d'amélioration, de modification, mais peut-être que la prochaine étape sera la suggestion d'un nouveau processus PDP pour avancer. Bien, sur ce, nous en avons fini avec cette présentation. S'il y a des questions sur cette présentation, veuillez vous présenter et adresser votre question à la personne correspondante Steve Myrtle. Merci de cette présentation très complète. Je vous remercie de tout cœur. Ça nous permet un petit peu de rassembler les pièces du puzzle. J'ai une question qui s'adresse à Mike sur la question de la validation Crossfield par rapport aux spécifications. Cela n'entre pas en vigueur, mais quel est le calendrier, le délai pour que cette spécification entre en vigueur? Deuxièmement, il existe plusieurs domaines de spécification du WIRD où les bureaux d'enregistrement doivent vérifier, revérifier des données, et s'ils n'obtiennent pas de réponse du titulaire de nom de domaine, ils doivent suspendre leur enregistrement ou vérifier les données. Je me pose la question de savoir si vous pouvez définir la vérification manuelle. À quoi faites-vous référence exactement? Merci, Steve. Première question. Délai et calendrier pour la validation de l'adresse WHOIS. Dans notre groupe de travail, on a travaillé beaucoup avant même d'avoir le feu vert du conseil d'administration. On a parlé entre nous. Et donc, lorsqu'on a obtenu le feu vert, on a commencé à travailler vraiment. Et l'idée, c'est de travailler encore plus après cette réunion. Essayer d'avoir un plan de projet sur lequel se mettre d'accord. En fait, je n'ai pas de délai précis à vous donner. C'est en cours pour le prochain trimestre. Mais notre idée, c'est de redynamiser ça un peu. Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question et j'ai déjà oublié la deuxième. Oui. Il n'y a pas de réponse claire à cela, me semble-t-il, en l'état actuel des choses. On essaie de faire quelque chose de nouveau, donc on va apprendre au fur et à mesure, comme l'a dit Maggie. Mais le fait est que les processus automatiques ne sont pas 100% fiables. Donc, il y a des données qui sont difficiles à vérifier de manière automatique. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine souplesse commerciale ou des entreprises. Donc, ce que l'on fait, c'est mettre en place les nouveaux RA, donc contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement. On organise des webinaires et on essaie de poster des conseils sur les nouveaux process. Et on essaie d'indiquer la raison d'être de ces transitions. Et nous nous excusons s'il y a encore un peu de manque de précision par rapport à cela. Merci. Question. Avez-vous une série de questions pour ceux qui ne sont pas des bureaux d'enregistrement? Oui, mon adresse personnelle. Non, vous savez, très honnêtement, je suis tout à fait disposée à répondre à ces questions. L'idée ici, c'est qu'on souhaite avoir des réponses cohérentes pour tous, parce que on n'aime pas que les gens n'aient pas de réponse à leurs questions et n'aient pas les idées au clair. Merci.
Michaela Nayland.
Bailen. Représentant de bureau d'enregistrement. Question de terminologie. Il faut que cette terminologie soit vague pour nous permettre de vérifier la signification des termes. Il s'agit d'un contrat, donc si vous êtes trop spécifique, alors cela peut avoir d'autres implications, d'autres sens. Donc peut-être qu'une rédaction plus vague, ce serait mieux pour les deux parties. Peut-être que certaines des nouvelles dispositions des RA vont être à l'origine de maux de tête pour l'ICANN et le reste de la communauté qui vont s'arracher les cheveux pour essayer de voir ce que veut dire cette terminologie. Et par rapport à WHOIS et tout ce que vous avez dit, c'est intéressant de voir que sur l'une de ces diapos, vous parlez d'une révision juridique et vous avez parlé des implications potentielles en termes de législation du droit privé. Et ça m'a surpris, mais ça, c'est un commentaire personnel. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Avons-nous des questions dans le chat room? Non, ça n'est pas le cas. Donc, merci d'être venu. D'autres actualisations vont avoir lieu. Merci d'être venu et d'avoir participé. L'une de nos missions, c'est d'informer la communauté de nos résultats. Et donc, dès que nous aurons des nouveautés, nous organiserons des réunions lors des conférences.